son nom scientifique.
Oh, c'est très facile, c'est lynx lynx.
Et donc, son nom vernaculaire.
C'est le lynx boréal, lynx d'Eurasie, lynx d'Europe.
Attends, on est vraiment dans une espèce de petit milieu bien mystérieux, quoi, avec la forêt,
avec une petite brume. Ouais.
Alors Jean-Pierre Fluc, vous pouvez un petit peu nous décrire l'endroit où on se trouve et puis sa particularité.
Donc ici, on est dans une zone forestière qui va certainement faire partie dans les années à venir à une zone protégée, c'est-à-dire on va créer des zones de tranquillité où il y aura des panneaux, où on essaye d'éviter que les gens pénètrent dans les forêts.
Laurent Gélin, une zone de tranquillité, c'est indispensable justement pour le lynx ?
Pour le lynx, paradoxalement, pas forcément. Le lynx, il peut s'accommoder assez bien de la présence humaine. Je dirais même que ce n'est pas un animal qui est particulièrement sensible au dérangement.
Alors ici, s'il n'y avait pas cette brume matinale, on aurait une magnifique vue sur les gorges de Noirvaux. Donc c'est magnifique, on peut bien voir les petits sentiers de gibier, les petits sentiers de chamois que vous voyez ci-dessous.
Quand on parle de lynx, il se nourrit de quoi principalement ?
Donc le lynx se nourrit uniquement de petits ongulés, donc chevreuils et chamois. Il peut avoir de la prédation sur des oiseaux, éventuellement du renard, mais c'est quand même rarissime.
On a souvent l'image du lynx caché dans les arbres et qui saute sur sa proie. C'est un peu une image d'Épinal, ou bien c'est vrai ?
Oui, c'est une image d'Épinal. Alors ça, c'est rigolo parce que ça, typiquement, en fait, ce type de chasse, c'est le léopard qui va faire ça. Le lynx ne fait pas ça du tout. Il va, sur son secteur, connaître toutes les zones où il y a des proies potentielles et il va chercher... Il rate, il va directement sur un autre secteur et ça va pas être comme le loup par exemple où ça va être plutôt une sélection d'animaux plutôt faibles ou malades ou blessés. Le lynx c'est vraiment l'opportuniste dans toute sa splendeur. Il va bien se cacher et si malheureusement il y a un animal qui est un petit peu tête en l'air, c'est celui-là qui va prendre quoi.
Et il piste pas un animal pendant des heures pour essayer de l'attraper, ça c'est pas du tout le cas non plus.
Pas du tout, il a un petit cœur, il peut courir une cinquantaine de mètres maximum. Et puis, une fois qu'il voit que la proie lui a échappé, il ne va même pas tenter. D'ailleurs, il y a quelques documents qui ont été filmés où on voit le lynx qui est vraiment tout près d'attraper sa proie. La proie le voit à 30 mètres, elle le regarde tout droit, il sait qu'il est fichu, il ne tente rien du tout, il se lève et il lui tourne le dos et il part très fièrement d'ailleurs pour essayer de garder sa fierté un petit peu.
Parce qu'on dit que parfois, on se promène en forêt, on a un lynx tout près qui nous observe et que nous, on ne le voit même pas, ça peut arriver.
Certainement que ça peut arriver. Le lynx est un animal, comme on disait, très peu farouche, pas très sensible au dérangement. Et puis, il peut arriver certainement que vous passez à 10, 20 ou 30 mètres d'un lynx qui est tapis peut-être sur une branche ou dans un bosquet et il va vous laisser passer. Vous ne le verrez pas.
Voilà, moi, je voulais aller vers cette maison.
Oui. Ah ouais.
On va voir un chemin, mais on ne le voit pas bien.
Donc c'est là que tu mets le piège pour le corail ?
Non, alors le piège du corail, il est sûr, mais on le voit
pas, oui, c'est dommage.
Là,
oui,
donc il y a un chemin ici en bas.
Okay.
Ici, si on veut dire, ça fait une gorge. Uh-huh. Et puis le lynx, quand il fait ses déplacements, donc quand il a envie de changer de territoire, il ne va pas passer ici au travers. Il va monter un chemin, il va prendre un sentier, il va être canalisé. Lui, il va prendre la solution de facilité, comme nous. Donc quand on fait des monitorings, on va choisir des endroits assez stratégiques où on sait qu'il y a des passages réguliers.
Mis à part les traces... Dans la neige, il peut y avoir des traces genre de marquage comme le font par exemple les chats.
Ah oui, absolument. Il y a des sites de marquage où parfois ça va être très aléatoire pendant la période de reproduction. Là. Donc ça va commencer gentiment mi-janvier, fin janvier, jusqu'à mi-avril en gros. Et là, les lynx vont beaucoup plus bouger. Ils vont même appeler et ils vont marquer. Dans certains cas, vous suivez une trace de lynx, il va marquer tous les 20 mètres. C'est-à-dire c'est une obsession, ils marquent partout. Et puis il y a vraiment les spots de marquage où là ils vont être utilisés toute l'année et il va venir marquer pour dire ici c'est chez moi.
On peut essayer de faire un petit bout le chemin, il y a un chemin au-dessus. Surtout si on voudrait voir une trace de lynx, je pense qu'on aurait plus de chance d'aller voir sur un sentier ou un chemin.
Vous avez dit que la population de lynx, elle a passablement augmenté par rapport à sa réintroduction, ça date de quand exactement ?
Alors, sa réintroduction date des années 1974-75, où il y a deux couples qui ont été introduits au canton de Neuchâtel. Et puis pendant plusieurs années, ça a été assez stable. Et puis là, on peut dire depuis une dizaine d'années, on a vraiment la population qui est montée. Donc actuellement, on estime à une quinzaine d'individus dans le canton de Neuchâtel.
Ah, ça y est, ça se dégage.
Petite vision, regardez comme c'est beau.
Ah ouais, magnifique.